font réagir. Voici Robert Pilote.
Midi 42 minutes pour ceux qui ont manqué les derniers segments de Midi Plus aujourd'hui. On vous a fait un spécial sortie de garde-robe d'Yves Lévesque. Après 7 mois, il quitte la mairie de Trois-Rivières pour des raisons de santé. Il décide de quitter tout court ses fonctions, réfléchit maintenant à son avenir politique chez les conservateurs. Et puis, il a commenté un petit peu, finalement, la campagne électorale. Il y a des moments savoureux dans ce qu'on vous a présenté depuis 11h10. Ils seront disponibles via l'application Cogeco Live sur notre site web du FM 106.9. Allez réécouter ça à satiété. Puis si on a le temps, d'ici la fin de l'émission, on va vous en repasser des petits bouts. J'ai pas le choix d'aller du côté d'ABI parce que c'est un pur hasard. Alors que le ministre du Travail, Jean Boulet, s'apprêtait aujourd'hui à déposer une hypothèse de règlement aux deux parties, un incendie, c'est assez spectaculaire, panache de fumée, à l'usine, à Bécancour. L'usine est en feu ce matin. Panique générale. Avant d'entendre deux personnes liées à cet événement-là puis à l'avenir de l'usine, voici en point de presse le commentaire qu'a donné le ministre du Travail, Jean Boulet, un peu plus tôt aujourd'hui.
Non, on a encore l'intention de déposer notre hypothèse de règlement cet après-midi. J'ai une rencontre prévue avec les membres de l'exécutif syndical, les membres de la direction locale. Après ça, je vais rencontrer les médias. Ce conflit-là, il dure depuis 15 mois. Évidemment, s'il y avait eu des enjeux suite à l'incendie, ça aurait pu être envisageable de reporter. Mais là, la sécurité civile me confirme qu'il n'y a pas d'enjeu, que tout est sous contrôle, il n'y a aucun blessé. Donc, on poursuit dans la même direction.
Quel est votre niveau de confiance en arriver à une entente?
Bien, l'hypothèse de règlement, c'est ma contribution pour aider les partis à régler ce conflit-là le plus rapidement possible. Ce que j'anticipe, c'est que l'hypothèse soit présentée aux salariés en Assemblée générale pour qu'ils puissent l'évaluer à son mérite. Et de la même façon, du côté patronal, que ça soit présenté à la maison mère. Quand les deux parties l'auront analysé, évalué à leur mérite, elles auront à se prononcer. Si les deux l'entérinent, c'est le scénario parfait et ça règle le conflit de travail. Sinon, on est actuellement dans une impasse. Il n'y a aucune discussion, aucun dialogue. Et j'espère que l'hypothèse de règlement, minimalement, pourra aider les parties à reprendre les discussions et à se rapprocher de façon substantielle. Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette hypothèse-là s'appuie sur le marché, sur la compétition, sur l'état du droit, sur des critères objectifs. Et moi, je considère que cette hypothèse de règlement-là, elle est normalement acceptable et raisonnable, tenant compte des enjeux. Et je me prononce sur tous les enjeux, tant de la convention collective de travail que du protocole de retour au travail.
Pour ce qui est d'ABI, encore une fois, il parle pas. Média, petit communiqué, quelques mots à peine pour nous dire qu'il n'y aura pas d'entrevue accordée. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'examen des causes de l'incendie à ABI et sur le soutien nécessaire à nos équipes sur place. Heureusement, tous les employés sont en sécurité. Ensuite, nous analyserons rigoureusement l'hypothèse de règlement et nous apprécions les efforts du gouvernement pour aider les parties à conclure une entente. Avant de parler à Jean-Claude Bernatchez pour analyser ce qui s'est passé aujourd'hui et la suite des choses également, Jean-Pierre Lehoux est un employé, un travailleur sur place ce matin qui a été témoin de ce qui s'est passé. Monsieur Lehoux, bonjour.
Bonjour.
Vous faites quoi dans l'usine?
Moi, je suis technicien de laboratoire en environnement normalement que l'usine est en fonction.
OK. Êtes-vous un employé locaté?
Oui, depuis un an et 3 mois, depuis 15 mois qu'on est en conflit.
OK. Vous étiez à l'extérieur de l'usine quand ça s'est passé. Est-ce que vous avez quand même été capable de mettre la main sur certains éléments d'information qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est passé?
En gros, l'information qu'on a eue de certains pompiers qui sont rentrés à l'intérieur, ce serait le compacteur de copeaux. Les copeaux, c'est tous les résidus de la coulée d'aluminium qui a rapproché au feu, ou la tuyauterie qui allait rejoindre ça le matin. C'est ça qui a passé au feu le matin. Ça, il y a eu comme plusieurs explosions, 2-3 grosses explosions et quelques petites. Puis après ça, le feu a monté très, très haut, une grosse colonne de fumée qui a duré peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure ce matin.
Est-ce que c'est suffisamment important pour compromettre les opérations à l'usine?
Non, si ça serait été dans le filage, mettons, de la fonderie ou ça aurait été une unité de coulée qui aurait sauté, que là, ça aurait pu beaucoup nuire aux opérations, mais non, c'est pas quelque chose qui... c'est les écopeaux. Ça pourrait être... On pourrait justement les envoyer ailleurs, justement, pendant un certain temps pour les poncer. Non, c'est pas quelque chose qui empêchait... Oui, c'est sûr qu'il va y avoir le toit à réparer, certaines réparations à faire interne, il va y avoir beaucoup de boucades à l'intérieur. Mais non, c'est pas ça qui va bien retarder. C'est pas ça qui nuirait à le retour au travail.
Merci beaucoup, M. Lehoux.
Merci.
À bientôt, Jean-Pierre Lehoux, un travailleur en locate qui nous a expliqué un peu ce qui s'est passé. Jean-Claude Bernatché, maintenant. Bonjour, M. le professeur.
Bonjour, M. Pilote.
C'est un drôle de timing, pardonne-moi l'anglicisme, là. C'est un hasard, drôle de hasard. Donc, hypothèse de règlement qui est soumise aujourd'hui par le ministre du Travail, puis un incendie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le langage de M. Lehoux, mais il n'y a rien là qui pourrait nous permettre de croire qu'on pourrait arrêter prématurément la dernière série de cuves.
Moi, écoutez, a priori, l'arrêt de la dernière série de cuves, les 120 cuves, si ça arrête ces cuves-là, ça va être dû à un échec de la négociation. L'employeur ne cesse pas de dire, le répéter à quelques reprises, qu'il entendait ouvrir son usine. Présentement, il y a des sous-traitants qui œuvrent à réparer les 480 cuves qui ont été fermées en catastrophe le 10 janvier 2018. Donc, l'employeur prépare son usine à une réouverture, mais il la prépare, bien sûr, à ses conditions.
Hypothèse de règlement cet après-midi.
Oui.
Bon. Ça, là, pour le commun des mortels, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça ne lie personne, ça ne lie pas les parties. Et comment est-ce que ça pourrait amener à un dénouement du conflit actuel?
Bien, vous savez, dans cette affaire-là, M. Pilote, dans notre triste lockout de 15 mois, là, enfin, on pourrait dire triste conflit de travail, de 15 mois, on est chanceux dans un certain sens parce qu'on a des ressources importantes. Commençons d'abord par le ministre Boulet, Jean Boulet. C'est un praticien des relations de travail, du droit du travail, d'expérience. Il y avait une trentaine d'années d'expérience. Puis il arrive comme ministre du Travail. C'est assez rare qu'au ministère du Travail, on ait un ministre avec autant d'expérience dans le monde des relations de travail. Ça, c'est un premier point. Un second point sur lequel monter l'hypothèse de règlement, c'est qu'on a eu Lucien Bouchard, qui a beaucoup d'expérience au Québec, et notamment comme médiateur. L'avantage de l'hypothèse de règlement, moi je la voulais, je la veux depuis un bout de temps, l'hypothèse de règlement, c'est de bien traduire l'intention, la perception et la conclusion, la pensée des médiateurs, spécialement Lucien Bouchard, et aussi M. Jean Nolin, qui est devenu là-dessus. Donc, l'hypothèse de règlement, ça va être essentiellement ce que Lucien Bouchard a conclu de son expérience de médiation. Là. Troisièmement, et finalement, l'hypothèse de règlement, là, écoutez, ça prend pas la tête à Papineau pour en faire une. On a sept autres alumineries au Québec qui fonctionnent. Bon, mais c'est évident que notre alumineries à Bécancourt, on a plein de, comment dire, de balises, de références pour monter une hypothèse de règlement qui aura plein d'allure. Ça, c'est sûr.
Si ça passe pas, les partis rejettent cette hypothèse de règlement. Là, on est-tu dans le trouble?
À mon avis, oui. Je dirais oui. Vous savez, on peut aller à oui parce que l'employeur semble tenir le mordicus à certaines choses. De certaines choses, on pourrait préciser. Malgré le fait que le syndicat, en passant, a fait un compromis là-dedans. Là. Prenons, par exemple, la question des postes, M. Pilote. L'employeur dit, on va réduire 130 à 140 postes. Le syndicat, 903. On n'est pas si loin un de l'autre que cela. Pour l'hypothèse de règlement, là, il y a un message. Peut-être que l'hypothèse de règlement dirait 120, 125 postes, par exemple, à mi-chemin. Pourquoi on parle de postes coupés? Parce que on veut établir à l'usine, quand je dis « on », c'est l'employeur, bien sûr, le travail continu. Qu'est-ce que ça veut dire, le travail continu? C'est abolir les quotas. Abolir les quotas, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on va au secteur électrolyse, les cuvistes à l'électrolyse par groupe de deux cuvistes fermaient 24 cuves 24 cuves dans leur corps de travail. Donc, après 24 cuves, il était en situation d'observation. Dans le fond, l'usine marchait comme ça depuis des lunes, là. Alors, quand on parle des travailleurs, par exemple, qui allaient dormir et tout ça, là-dessus, il y a des légendes urbaines, dans le sens que c'était parfaitement au su et au connu de tout le monde que les travailleurs, après avoir fait leur quota, étaient en situation d'observation. L'employeur veut abolir l'approche des quotas. En abolissant l'approche des quotas et puis introduisant le travail continu, ben ça leur donne la possibilité, évidemment, de réduire la force active. Ça, c'est un premier point. Un second point là-dedans, et au niveau de la sous-traitance, moi, j'ai entendu un syndicaliste dire que l'employeur entendait réduire 26 postes, puis un cadre de ABI qui m'a dit que l'employeur entendait réduire 26 postes. 26 postes sur 1000 postes, c'est pas si gros que ça, là, entre vous et moi, hein? Mm-hmm. Donc, 26 postes, ça serait des postes manutention-transport, et puis des postes à la rénovation des cuves, là, ça, le brassage. Une fois qu'on a dit ça, il nous reste la question des libérations syndicales. Les libérations syndicales, historiquement, il semble qu'on ait monté jusqu'à 32 000 heures par année. 32 000 heures, c'est 16 postes équivalents. L'employeur en offre 7 500. Ben, il y a une vérité autour de ça, entre 32 000 et 7 500. Mais quand on parle de libération syndicale, il faut dire aussi que là-dedans, il peut y avoir des fonctions essentielles pour l'employeur, mais vous en nommez deux, trois. Exemple, un salarié libéré, appelé activité syndicale, qui s'occupe de santé et sécurité au travail. Un autre qui s'occupe du programme d'aide aux employés. Vous voyez? Un autre qui s'occupe des enquêtes accidents. Donc, là-dedans, là, quand on parle de libération syndicale, même si 32 000 heures, ça peut paraître évidemment élevé, 7 500, ben, c'est peut-être un peu faible pour le syndicat, malgré le fait que notre premier ministre a dit 7 500, c'est assez. J'ai compris ça, moi. Avez-vous compris ça, vous, M. Bidotte, aussi?
Bien, écoutez, on va suivre le dénouement de cette histoire-là aujourd'hui ou demain. Merci, M. Bernatché.
Je vous en prie, M. Bidotte, ça me fait plaisir. On a là une belle chance de régler ça parce qu'on a des ressources compétentes. L'hypothèse de règlement, c'est le temps que ça vienne et puis c'est une belle opportunité pour régler.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonjour.
À bientôt. Jean-Claude Bernatché, hypothèse de règlement. Et au moment où le ministre s'apprête à déposer cette hypothèse de règlement au syndicat des métallos et aux dirigeants d'ABI, un incendie ce matin, explosion, panache de fumée à l'usine de Bécancour. Pas de blessés, heureusement. Des dommages matériels. Ça ne compromet pas le maintien des activités à l'intérieur de l'usine. C'est la bonne nouvelle. Et pour la suite, on verra bien comment tout ça va aller. As-tu regardé le hockey un peu hier, toi?
Oui, alors? J'ai regardé un petit peu.
C'était assez
on
surprenant.
On avait l'occasion de voir d'un côté le Lightning contre les Blue Jackets et de l'autre aussi les Pingouins qui sont fait balayer par les Islanders.
Les deux, c'est incroyable. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'ils font rire d'eux autres.
Ouais. Ben écoute, surtout...
C'est François Vigeant qui disait à Catherine ce matin, c'est tout le Lightning. Long, c'est Villeneuve. C'est Villeneuve. Là. Ils ont l'air fous. La Ligue nationale a l'air fous.
Ouais, surtout le Lightning de Tampa Bay. C'est ton équipe qui a tout balayé cette année. 62 victoires. C'était l'équipe qu'on voyait aller jusqu'à la finale et même possiblement remporter la Coupe Stanley. Puis comment cette équipe-là s'est effondrée? Puis tu sais, ça aurait pu arriver à être éliminé dès la première ronde, mais en 6 ou même allant en 7 parties. Mais là, complètement balayé. Le Lightning, qui pourtant, rappelle-toi, Robert, dès le premier match, avait marqué 3 buts, avait pris les devants 3-0 en première période. On s'était dit, hey, ça va être un pic pour le Lightning, cette série-là. Pas du tout. Les Blue Jackets ont mieux joué. Les bons joueurs aussi des Blue Jackets se sont levés. Je pense entre autres à Panarin. Je pense au gardien de but Sergei Bobrovski. Les nouveaux venus aussi avec les Blue Jackets. Cam Atkinson aussi, qui est un attaquant, un bon attaquant de l'équipe. Pierre-Luc Dubois, qui est un jeune de l'organisation. Si bien qu'on se retrouve avec une équipe qu'on croyait championne ou qui pourrait être championne de la Coupe Stanley, ben, éliminée, balayée en 4 matchs contre les Blue Jackets. Et dans l'autre, ben, c'est peut-être des Pingouins de Pittsburgh qui commencent à être usés ou fatigués. Il y a quand même un noyau chez les Pingouins de Pittsburgh, puis qu'on peut être en mesure de renverser une jeune équipe comme celle des Islanders de New York.
On va en reparler tantôt avec Jérémy Filosa. Allez voir les extraits de cette entrevue qu'on a fait avec Yves Lévesque. C'est long, on a fait quasiment une heure.
Une heure et demie même, je dirais.
Une heure et quart.
Il est arrivé ici à 11h, 11h, il a quitté à midi et demi. Hein.
C'est divisé en 2-3 segments sur Facebook, sur notre site Internet également. Vous allez pouvoir réentendre les audios en balado de ce qui s'est passé là. Je sais qu'il y en a qui ont commenté. Tantôt, j'ai peut-être échappé M. le maire. Tu sais, c'est par habitude, tu sais, quand ça fait 20 ans que quelqu'un est maire.
Bien, il est maire jusqu'à l'élection.
Je ne sais pas, hein? Tu sais, quand tu démissionnes, est-ce que tu arrêtes d'être le maire? Je
pense que oui. C'est vrai que dans ce cas-ci, c'est une démission.
Moi, je pense qu'il a démissionné. Ouais. Mais quand même, tu sais, il va porter ce nom-là toute la vie. Mm. Tu sais. Écoute, tu sais, M. Drapeau à Montréal, tu sais, c'était M. le maire quand même. Ouais. M. Labombe à Québec a marqué l'histoire, M. Pelletier et d'autres. Alors donc, non, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des gens, je peux t'en lire quelques-uns de gens qui commentent. Stéphane dit « Recevez mes meilleures salutations, M. l'évêque. Vos paroles concernant Vision Zéro sont de la musique à mes oreilles. Louise, Yves, on s'ennuie de toi, meilleure mère que Trois-Rivières a eue. Joanne, j'écoute à propos du fluor. » Il y a Christian qui dit « Ben oui, parle du Parti conservateur, il veut se présenter. » Françoise, pourquoi l'appeler, c'est elle qui dit ça, Françoise, mm-hmm. « Monsieur le maire, il est devenu simple citoyen, monsieur l'évêque. » Oui, ben de toute façon, je pense que c'était ça avant même d'être maire. Je pense que ce gars-là a toujours été un simple citoyen, comme vous, madame, puis comme nous autres aussi, on est des simples citoyens, des mortels en plus, simples mortels. Francine, ceux qui sont contre la fluoration de l'eau, vous avez les connaissances et les compétences pour connaître le sujet à fond avec les pour et les contre, parce qu'il était question de ça tantôt. Il y a Marie-Claude Camiran, ah tiens, l'ancienne conseillère, qui écrit également. Elle dit « La question n'est pas d'avoir des connaissances pour se prononcer contre, mais surtout de pouvoir décider si je veux qu'on me donne une médication contre mon gré. » Ce que je mets dans ma bouche, mon estomac et mon corps, c'est à moi que revient la décision de la prendre, pas à la ville. Et pour info, l'évêque a finalement décidé de reculer et refuser la fluoration, dit l'ancienne conseillère municipale. Gabriel, lavez-vous les dents et mangez sainement au lieu d'empoisonner les gens avec du fluor. Voilà. Merci d'écrire. J'en lirai d'autres tout à l'heure. Il faut s'arrêter. Cathy arrive dans le studio pour nous livrer les nouvelles.